« Il ne va pas faire bon rester dehors, » répondit le capitaine. Comme pour lui donner raison, de grosses gouttes d'eau commencèrent à tomber. Montrant du doigt une forme sombre, il ajouta « Maille fort !» Au détour du chemin, le château venait d'apparaître. Aussitôt, Amaury fut pris de tremblements qu'il dissimula de son mieux. Antoine Garin et les soldats se turent subjugués par l'apparition de la citadelle. Trapue, noire, épaisse, elle secrétait une mystérieuse angoisse qui semblait gagner la lande en rasant ses ajoncs et ses herbes folles, allant jusqu'à contaminer les cavaliers. Le mauvais temps n'arrangeait rien. Le vent poussait de gros nuages lourds qui écrasaient le paysage et contribuaient à baigner de gris et d'appréhension les voyageurs. Le ciel semblait retenir avec effort les masses d'eau qu'il abritait, mais qui n'allaient plus tarder à se déverser sur la lande, sur ses bruyères et ses genêts. Si sombre, si inquiétante était la demeure, comme l'étonnant crapaud dont avait parlé le commandant, qu'elle semblait guetter l'approche des cavaliers. La particularité de la forteresse était ce gros donjon qui dominait de presque 20 toises l'océan. Son pied, composé d'énormes moellons de granit usé par les intempéries, descendait le long de la falaise pour s'y appuyer en contrebas sur un rebord de rocher. Les hommes quittèrent le sentier naturel qui conduisait à Maillefort et gagnèrent un étroit chemin côtier. Ils devaient se rendre le plus discret possible et prendre le temps de la réflexion. Ils descendirent jusqu'au sable et se mirent à l'abri d'une petite crique. À 150 coudées, la masse du donjon dominait l'océan. Des hordes de corbeaux l'assaillaient en croissant. « Lugubre !» dit Garin. « La petite anse, de l'autre côté du château, c'est là que je me suis retrouvé après avoir nagé. » La voix tremblait. Pierre de Restrenant regarda Amaury. « Domine ta peur, jeune comte. C'est d'abord pour cela que tu es revenu jusqu'ici. » Amaury venait d'être percé à jour par le capitaine. Cette lucidité lui rendit confiance. Il était bien là son premier but. Il devait dominer cette terreur qui restait tapie en lui. Il se concentra sur la réalité du paysage, prit le temps de le balayer d'un regard circulaire pour s'arrêter sur le donjon. Ses yeux le parcoururent du sommet jusqu'à son pied. Il connaissait l'exact emplacement de son cachot, 5 toises au-dessus du niveau de l'océan. Il était là, dissimulé derrière les gros moellons de granit qu'il avait retenus captifs plus de 1 400 jours. « Et où se trouve le trésor ?» chuchota Garin à l'oreille de son frère. Amaury désigna une légère fente dans la muraille, imperceptible au simple observateur. Une fissure rectiligne, comme un trait de crayon dessiné dans le pied du donjon. Ce pied qui reposait lui-même sur le rocher, 2 toises et demie au-dessus de l'océan. C'est par là que je me suis échappé et que j'ai plongé dans la mer. C'est ici que nous devons nous rendre, répondit-il. Le vent s'était renforcé, les vagues se brisaient contre la falaise et leurs embruns atteignaient jusqu'aux pierres de soutènement du donjon. « Nous ne pourrons pas remonter par où tu es descendu, jeune homme, » observa Pierre de Restrenant, forçant la voix pour se faire entendre. « Il nous faudrait des ailes, même avec un bateau. Nous serions incapables d'approcher sans risquer de briser sa coque contre le rocher. » Il ne restait qu'une solution, entrer dans la forteresse et faire face. Amaury ne voulut pas prendre l'initiative de cette solution. Le capitaine ne s'était-il pas engagé à intervenir qu'en cas de danger de mort? Et sans la garde du connétable, passer le pont-levis, c'était marcher sur la langue du crapaud et pénétrer sans défense dans sa gueule. « N'aurions-nous point le droit d'aller saluer ce cher foulque de Maillefort ?» soumit en souriant Pierre de Restrenant. « De la part du connétable, il sera honoré. Penses-tu, comte de la Hamelinière, que le baron se trouve dans son logis à 7 heures ?»« Il n'y a point de logis seigneurial à Maillefort. Foulque a préservé le château dans l'état où il l'a acheté. Il loge dans le vieux donjon, à l'étage. C'est un ours. Tu veux dire que ce château, qui date de la 2e croisade, n'a pas bougé depuis 300 ans. À part peut-être quelques fenêtres à meneaux, protégeant des vents d'hiver, il est resté dans son état premier. Oui. La grande salle se situe au 1er étage, les appartements de Foulque au 2nd, les cuisines et le service au rez-de-chaussée. D'après mes déductions, au 1er sous-sol, c'est le garde-manger, au-dessous mon cachot, et au 3rd niveau, la salle d'où je me suis échappé. Et la garde ? Dans les 2 tours du Châtelet, quand j'y suis arrivé il y a 7 ans, 30 hommes d'armes y habitaient. Ils sont moins, peut-être 15 désormais, répondit un compagnon de Rostrenan. « D'où le sais-tu ? » lui demanda son capitaine. « Par un mien cousin, ils étaient si peu payés que la moitié s'est engagée dans l'armée du roi. Ceux qui sont restés ne sont que des soifards, des brutes avinées et dangereuses, sans aucun scrupule. Alors allons-y, présentons-nous. Mais avant, nous allons nous préciser chaque manœuvre et chaque modification de plan en fonction des événements, » dit Pierre de Rostrenan, qui prenait les commandes au soulagement d'Amaury. Il pleuvait dru quand le tablier du pont-levis résonna mat sous les sabots des chevaux. La herse restait fermée. Les 10 hommes se protégeaient comme ils le pouvaient sous leurs capes et leurs chapeaux. Cette pluie pourtant tombait du ciel car elle n'encouragerait pas les hommes qui veillaient sur la forteresse à scruter avec minutie la figure des arrivants. Pierre de Rostrenan dut répéter « Lieutenant, général, Pierre de Rostrenan, envoyé par le connétable Arthur de Richemont pour saluer le baron Foulque de Maillefort. » On entendit enfin le cliquetis du mécanisme qui actionnait la levée de la herse. Amaury, en avant-dernière position, baissait bas la coiffe qui le protégeait. Cette cour et tout au fond, sur la gauche, l'entrée du donjon, les marches sur lesquelles Foulque attendait son ami Gauthier de Haute-Cour, tout lui revenait en mémoire comme si rien n'avait changé depuis 7 ans. Sauf que, cette fois-ci, le baron ne campait pas sur les marches pour les accueillir. Un chef de la garde, tête haute, la main sur le pommeau de son épée, tenait sa place. Pierre de Rostrenan, en tête, avança jusqu'à lui. Il mit pied à terre et, calmement, sous la pluie battante, lui adressa la parole avec autorité. « Vous n'êtes pas sans connaître le connétable qui m'envoie pour cette visite de courtoisie. Pouvez-vous me conduire jusqu'à votre maître ? Le baron Foulque de Maillefort est absent. Il ne sert donc à rien que vous demeuriez dans cette forteresse. » Le ton et les mots ne respectaient aucune convention en usage. Ce soudard, même pas sergent, venait de manquer singulièrement de respect au capitaine. L'escorte de Rostrenan fit un pas en avant. Sans se retourner d'un geste du bras, il les calma avant de reprendre avec une amabilité appuyée. « Nous permettrez-vous néanmoins de gagner vos abris quelques instants avant de repartir ?» Désarçonné par le ton affable et insistant, le responsable de la garde répondit « Si vous le souhaitez. Mettez donc vos chevaux à couvert sous les préaux, là-bas, le long de l'écurie. » Sortant de leur quartier, des gardes de Maillefort, heureux d'avoir de la compagnie, s'avancèrent vers les écuries à la rencontre des hommes du connétable qui venaient de mettre pied à terre. Ces derniers jouèrent bien le jeu, s'appliquant à les occuper comme l'avait demandé leur capitaine. « Hola, compagnons, nous offrirez-vous la bonne rasade de vin qui nous fera oublier toute cette eau ?» Les hommes à qui ils s'adressaient, si puants qu'ils n'avaient pas dû changer de vêtements depuis 6 mois, leur sourirent de leurs bouches édentées. « Mordiable sûr ! Contre quelques deniers, nous vous dénicherons dans les cuisines le meilleur breuvage qui soit. » Une trouée de soleil donna du cœur à Antoine, jusqu'ici impressionné par les murailles qui l'entouraient. Il se tenait au milieu des gardes de Rostrenan, en ayant bien du mal à dissimuler sa longue masse d'armes dont il feignait de se servir comme d'une canne. « Regardez le sautard avec sa crosse d'évêque !» dit un bougre au visage violet. « Bouh ! As-tu donc si peur des gens de Maillefort pour te promener avec un tel engin ?» Antoine, pour toute réponse, arbora un sourire si benêt que la garde éclata de rire en disant « Le gros simplet, un vrai coq-bert !» Amaury se tenait derrière lui. Dans la troupe qui leur faisait face à 5 pas, il lui sembla reconnaître l'un de ceux qui l'avaient enlevé. Allait-il l'identifier ? Avant qu'il n'eût le temps de se dissimuler derrière son nigaud de frère, l'homme posa sur lui un regard un peu trop appuyé, presque suspicieux. Il y a si longtemps que ces événements ont eu lieu, et cela s'est passé si vite, il ne peut pas me reconnaître, s'encouragea Maury. Sur les marches, le chef des gardes de Maillefort réfléchissait. Les mots prononcés par son visiteur, lieutenant général du connétable Arthur de Richemont, arrivait enfin, bien que tardivement, à sa conscience, car il se mit soudain à saluer avec déférence. « Capitaine de Rostrenan, je vous invite à investir la demeure du baron. Montons, il vous revient les honneurs de la grande salle de la vieille forteresse de Maillefort. » La courtoisie retrouvait donc sa place légitime. En l'absence de l'hôte de ces lieux, son second devait offrir la meilleure hospitalité à ce chevalier proche du roi Charles VII. Il ajouta, s'adressant à l'un de ses hommes, « Et toi, Sacha Gouin, occupe-toi de tes collègues. Le garde interpellé demanda à l'un de ses congénères de quérir un tonnelet de Gwynwen en cuisine, puis il entraîna les soldats du connétable vers le châtelet. Tout en attachant son cheval sous le préau, Pierre de Rostrenant glissa à Maury « C'est une chance que l'ogre ne se trouve point dans sa tanière. Comme prévu, descendez avec vos frères et tentez de récupérer ce qui vous appartient. Je m'occupe du disonnier. J'arriverai à le tenir à l'écart pendant une petite heure. Faites vite !» Amaury fit signe à Antoine de se joindre à lui et ils rattrapèrent le garde qui entrait en cuisine pour y chercher un tonnelet de vin. Ils se faufilèrent à sa suite. Sur le flanc gauche, la grande cheminée, mal aérée, dans laquelle se consumait une souche trop humide, enfumait d'acres effluves la grande pièce. S'y affairait un maître coq et quelques marmitons. Sur la droite, dans un renfoncement, derrière l'escalier de pierre qui montait vers les étages, se trouvait une autre porte. Le garde qui les précédait s'y engouffra et ils le suivirent une nouvelle fois. Antoine interrogea Amaury du regard, en lui montrant la grosse corde enroulée autour de son ventre. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas par où descendre. Au moins 3 niveaux les séparaient de la salle du trésor. Avant toute chose, il devait rejoindre le garde-manger et, pour ce faire, découvrir le passage qui y conduirait. Car c'était dans la pièce du dessous que se dissimulait la trappe qui donnait sur son cachot, celle que soulevait chaque jour le geôlier qui lui descendait le panier contenant son maigre repas. Amaury frissonna, mais il se reprit aussitôt. « Ta cible, rien que ta cible !» Le garde venait de découvrir ce qu'il cherchait. Sur une haute rangée de barriques trônait un petit tonnelet dont il se saisit en riant et en le représentant à bout de bras comme un trophée. « Saurus Gwynwen ! Bravo !» félicita Maury. « Allez-y, portez-le aux hommes. Nous, on va rester un peu en cuisine. » La porte refermée, Antoine héla son frère. « Au fond, à droite, l'escalier !» Effectivement, à peine visible derrière l'empilement des tonneaux, une ouverture permettait de s'enfoncer dans la muraille. Accrochée sur le linteau, une torche et sur une étagère, étoupé briquet pour allumer le flambeau. Les deux frères s'engagèrent dans le corridor, suffisamment large, une bonne demi-toise, pour que barils et autres victuailles puissent y être transportées. L'escalier en colimaçon conduisait jusqu'au sous-sol. Brandissant la torche devant lui, Amaury précédait Antoine. C'était bien là que se trouvait le garde-manger. Au sol, des fûts de toute taille, des saloirs en terre cuite, des viandes baignant dans la saumurée, suspendues au plafond des harengs séchés et du gibier déjà bien faisandé. Le garde-manger prenait tout l'espace de l'étage, plus de 6 toises de diamètre. Amaury n'avait aucune idée de l'endroit où pouvait se trouver la trappe de pierre qui donnait sur son cachot. Ce passage était le seul accès possible, sans doute vers l'ouest de la salle. Vers l'ouest, bien sûr. Il se souvenait exactement du nombre de pas qui séparait l'arc de la muraille de l'aplomb d'où descendait le panier. 3 pas. C'est là qu'il fallait chercher. Amaury s'appuya dos au mur du plein ouest et fit 3 longues enjambées. Il buta sur une corbeille d'osier tressée qui était posée là. D'un geste, il désigna l'endroit à Antoine qui, d'un coup de pied, fit glisser la corbeille. La trappe de pierre apparut, encastrée dans le sol. Un gros anneau reposait en son centre, glissé dans une embase de métal scellée dans la pierre. Amaury, le regard chargé d'émotion, fit un nouveau signe à son frère. Antoine tira sur l'anneau et souleva sans effort apparent la dalle de granit de 5 pouces d'épaisseur. La torche, descendue à bout de bras par l'ouverture, éclaira le cachot. Le sol apparut, 2 toises et demie plus bas. Une couverture mitée reposait, bouchonnée dans un coin. « Ma couverture !» dit Amaury à voix haute. Antoine déroula la corde qu'il cachait sous ses vêtements et il la fixa à l'aide d'un nœud solide sur un anneau enfiché dans le mur. Il secoua son frère. « Il faut descendre !» Antoine posa sa masse d'armes sur le sol et pénétra le premier par la trappe éclairée par la torche. Il frémit en apercevant à mi-hauteur une rangée de crânes exposés dans des niches. « Ceux qui m'ont précédé dans ce cul de basse fosse, » expliqua Amaury. La journée était en son milieu, le soleil à son zénith, et pourtant sans l'éclairage de la torche, il aurait fait nuit noire dans le cachot. « Comment faisais-tu pour voir quelque chose dans ce trou à rats ? Il y a 2 minuscules ouvertures dans la paroi. Dans le noir, au fur et à mesure que les mois passent, on devient un vrai hibou, et on arrive à survivre dans l'obscurité presque complète. On en vient à se réjouir de très peu de choses. Je me suis régalé de la faible lueur des pleins jours d'été. Elle parvenait à éclairer tout mon cachot. Arrivé sur le plancher, Antoine pivota lentement sur lui-même, la torche à bout de bras pour découvrir l'endroit. Dans son dos, le rocher de la falaise, et face à lui, la courbe des grosses pierres de soutènement du donjon. La muraille décrivait un arc de cercle parallèle à la paroi rocheuse, une toise et demie de profondeur. Deux toises séparaient les murs latéraux l'un de l'autre. Le lieu était humide et triste. Tout y était si froid. Il fut pris d'une immense compassion pour son frère qui avait vécu ici de 12 à 16 ans, abandonné de tous. Amaury descendu à ses côtés, lui prit le flambeau des mains et il se dirigea vers la muraille. Ce qui l'éclaira étonna son frère. Deux bustes en relief, ciselés dans la roche. Sous les oscillations de la flamme, les gravures taillées se mouvaient, presque vivantes. Antoine s'approcha et reconnut l'un des visages. « Jeanne ! Jeanne enfant ! » dit-il étonné. « Oui, Jeanne, qui m'a tenu compagnie ici. » Depuis 3 ans, les lieux étaient restés tels qu'il les avait laissés. Reprenant ses esprits, conscient de l'urgence de la situation, il ajouta « Descendons ». À 3 pieds de l'aplomb de l'ouverture par laquelle il s'était introduit dans le cachot, un passage de forme carrée se découpait dans le plancher. « Est-ce la trappe que tu as sapée pour descendre plus bas, celle qui t'a demandé des mois d'efforts ?»« Oui, de longs mois, pour briser la rainure qui retenait la dalle. » Un frémissement traversa Antoine, ses yeux s'embuèrent une nouvelle fois de compassion. Quelle force d'âme habitait son frère! Une admiration, un immense respect monta en lui. Ce respect sans parole que l'on adresse à ceux qui ont traversé l'enfer. La force de caractère, voilà ce que Matthieu avait transmis à sa descendance, se dit-il. Indestructibles les Perrins. Il ajouta à haute voix une phrase incompréhensible pour celui qui n'avait pas suivi son raisonnement. Quel bon père nous avons, mon frère, quel fabuleux héritage! Amaury sembla suivre sa pensée, puisqu'il se fendit d'un grand sourire. Il se secoua soudain, chassant toute émotion. Il devait garder la tête froide, le temps pressait. « Pour descendre plus bas, pas besoin de cordes. Il y a une échelle en fer scellée dans la paroi, » expliqua-t-il à Antoine, tout en se glissant par l'ouverture qui ne faisait pas plus d'un pied et demi de large. « Éclaire-moi. Toi, tu ne passeras pas, tu es trop gros, » fit-il sur un ton amusé, pour se libérer du trop-plein de tension créée par la situation. « Pas trop gros, trop large d'épaule, avorton !» répondit du tac au tac Antoine, qui constatait effectivement qu'il ne pourrait pas se glisser dans le passage trop étroit. Quand Amaury atteignit le sol, son frère pencha la torche au travers de la trappe pour l'éclairer, puis, curieux, il passa la tête. « Ton trésor se trouve dans cette cellule ? Éclaire la paroi sur la droite de l'échelle, tu vas voir. » Rien n'avait bougé. Amaury se souvenait d'avoir maquillé de boue et de sable la pierre en relief afin de la dissimuler aux yeux de l'éventuel curieux qui se serait aventuré jusqu'ici. Il balaya de la main le sable séché agglutiné sur la paroi. Des armoiries sculptées dans la pierre apparurent, celles du Templier, premier propriétaire du château. Plus bas, il dégagea le contour d'un petit écusson inscrivant une croix rouge en son centre. Avec 2 doigts, il appuya dessus et l'enfonça d'un demi-pouce. Un clic se fit entendre. Antoine, la tête penchée dans l'embrasure, les yeux grands ouverts, retenait son souffle. En poussant le bord du blason sur l'arête de granit extérieur, Amaury fit pivoter le moellon, dégageant ainsi une cache creusée dans la roche. « Oh, astucieux ! Et tu as trouvé ça tout seul ?» fit Antoine admiratif. « Sors ta besace !» lui répondit son frère concentré. Antoine retira de sa chemise une sacoche vide, cousue par Béraud dans un cuir solide. Amaury commença par retirer de la cache un sachet de lin, qu'il éleva dans la paume de la main pour le tendre à son frère. Les pierres précieuses. Puis, par 5 fois, il glissa son bras dans la cachette pour en retirer des sacs nettement plus lourds qu'il transmit pareillement. « Plus de 8 livres chacun !» souffla Antoine, étonné en les déposant dans la sacoche. Quand le trésor au complet fut hissé et rangé dans la besace, Amaury remonta par l'échelle rouillée. Il demanda à son frère « Arriveras-tu à les porter discrètement ? Je serai juste un peu plus gros, mais avec ma cape, personne ne s'en rendra compte. Vite, remontons !» Antoine accrocha la sacoche à l'extrémité de la corde, puis il se hissa par celle-ci jusqu'à l'étage supérieur. Amaury le suivit et tous deux tirèrent en riant les 50 livres de poids qu'elle contenait, le trésor de Maillefort. Sur les dalles du garde-manger, ils ouvrirent l'un des sacs et brassèrent à pleines mains les augustales. Les pièces étaient magnifiques, sans défaut. Elles chantaient d'un son clair et semblaient tout juste sorties du coffre d'un croisé débarquant de Terre Sainte. Ils se trouvaient tous deux penchés à contempler les reflets de l'or qui scintillaient à la lumière de la torche quand, inattendu, une voix caverneuse se fit entendre. « Ainsi, le jeune comte n'a pas pu s'empêcher de revenir visiter mon cachot. » Amaury fut instantanément paralysé. L'ogre était là, à quelques pas, derrière son dos. Le monstre, le geôlier, qui ne lui avait manifesté aucune pitié pendant toutes ces années de détention. « Bienvenue dans mon donjon !» Des grognements sourds ponctuèrent les mots prononcés par Foulque de Maillefort. Antoine, qui se trouvait face au maître du château, le regardait, hypnotisé par ce qu'il voyait. Grand, gros, le ventre débordant, énorme, le baron les dominait de toute sa hauteur et de toute sa largeur. Il gloussait à la manière d'un chat qui s'amuse avec la souris qu'il vient de capturer. « Bienvenue dans le château de Maillefort, le château de votre mort !» Sachant les visiteurs à sa merci, il se plaisait à recouvrir de bonhomie sa férocité. Son triple menton mal rasé, graisseux des repas de la semaine, sa bouche ricanante aux dents noires, sa voix sépulcrale méprisante, paralysèrent Antoine qui le contemplait bouche bée. Deux énormes chiens grondants se tenaient à ses côtés, heureusement retenus par des chaînes enroulées aux poignets du maître des lieux. De longues pointes de fer hérissées, tranchant sur le sombre pelage, ornaient leurs colliers de cuir et brillaient à la lumière de la torche. Amaury, qui ne s'était pas encore retourné, observait son frère subjugué par le tableau qu'il contemplait. Quand il pivota sur lui-même, tremblant d'affronter la réalité, le choc provoqué par la vision du baron fut terrible, décuplé par les années de souffrance que sa mémoire lui renvoya. Il sortait de l'enfance quand l'ours de Maillefort l'avait emprisonné. Il l'avait retenu à sa merci comme un rat que l'on enferme dans une cage si facilement. Foulque, baron de Maillefort, était le mal, et ce mal le terrorisait à nouveau. Mais aujourd'hui il ne rêvait pas, il ne délirait pas. Il reconnut les molosses aux mâchoires pendantes, ceux qu'il avait accueillis au château en 1432, retenus dans l'aise par le bras gauche de leur maître, son unique bras vaillant. « Tu les connais, mes chiens de Transylvanie. Ils en ont déjà dévoré beaucoup, des hommes aussi inutiles et couards que toi. » Foulque de Maillefort subitement laissa filer son bras, laissant croire qu'il libérait ses cerbères. Antoine et Amaury sursautèrent, ébauchant un geste de recul, geste qui fit jaillir le rire tonitruant de leur hôte. « Famelette, et c'est toi qui aurais oxy le meilleur ami que j'ai jamais eu ? Tu n'as pu que l'assassiner par derrière, comme un lâche. » Le regard de Foulque de Maillefort fut soudain attiré par les pièces d'or. Dans la sacoche ouverte, le métal jaune projetait des lueurs fauves sous la lumière de la torche que soutenait Antoine. « Vois-tu, jeune imposteur, je suis fort aise que tu sois de retour pour me transmettre les richesses qui me reviennent de droit. Faites glisser ce sac jusqu'à moi. » Amaury désespérément tentait de lutter contre la torpeur et le sentiment d'impuissance qui l'anéantissait. Le cauchemar de ces nuits était là, vivant, colossal, campé à deux toises de lui comme une forteresse invincible. L'urgence et la terreur paralysaient son esprit, l'empêchant de trouver un espace apaisé où la lucidité lui aurait permis de construire un plan d'action. Toujours penché, il prit une longue respiration, essayant de récapituler tous les enseignements reçus par ses maîtres d'armes. Ta cible, rien que ta cible, ces mots le traversèrent de nouveau. Il savait que pour atteindre le cœur de l'objectif, tout son être devait se condenser, devenir pensée unique, tendue vers la cible à atteindre, récapitulant en une fraction de seconde l'enchaînement des actions à mener. Une deuxième respiration l'entraîna vers une concentration extrême qui lui permit d'observer la situation et d'en serrer tous ses éléments. Son esprit engourdi réussit enfin à se frayer un chemin de survie. Il obligea sa raison à réinvestir l'espace détenu par le trop d'affectivité, lesté de peur qui le paralysait. Le concret, rien que le concret. Alors, sa main trembla moins, puis elle glissa imperceptiblement vers le pommeau de son épée.
« Poltron, vas-tu te secouer ? Rends-moi cet or qui m'appartient. Dépêche-toi ou je lâche mes chiens. »
Antoine regardait son frère, espérant de silencieuses instructions. À deux pieds de lui, posée là, sa masse d'armes attendait. Une lueur subtile traversa les yeux d'Amaury. Antoine, soulagé, réalisa qu'il émergeait enfin de son hébétude.